les poses les plus naturelles en fonction de la force invisible qui s'exerce sur le corps. Bacon peut faire les figures les plus contournées du monde. Mais on a l'impression que c'est comme des corps à la torture. Mais c'est une première impression qui, elle, est figurative et narrative. Car si vous prenez plus un regard, comment dire, pictural, vous apercevez que si vous arrivez à comprendre vaguement la force qui est en train de s'exercer sur le corps a la position la plus naturelle en fonction de cette force. Prenons des exemples quotidiens, alors là, au point de restaurer comme une espèce de figuration, mais la figuration secrète d'un tableau. Prenez quelqu'un qui a mal au dos, un peu mal au dos, pas très, hein, qui a une vertèbre un peu déplacée, et qui doit rester, qui, pour une raison quelconque, doit rester assis très longtemps. Si vous le regardez, vous verrez qu'il prend de l'extérieur l'attitude du corps qui peut vous paraître la plus suppliciée, la plus contournée du monde. Mais qui, en fait, et en fonction des forces qui s'exercent sur lui, est la plus naturelle, et précisément celle qui lui permettra de tenir le plus longtemps. Si la peinture, si le fait pictural, ce que je veux dire c'est ceci, le fait pictural est fondamentalement et essentiellement maniériste. Pourquoi ? Parce que le maniérisme, c'est exactement l'effet que nous fait une figure, que nous fait une forme visible, lorsque l'on ne voit pas la force invisible qui s'exerce sur elle. Si, par votre œil pictural, c'est-à-dire votre troisième œil, si par votre troisième œil, vous saisissez la force qui s'exerce sur le corps, puisque c'est ça l'objet de la peinture, capter la force, à ce moment-là, ce corps cesse d'être maniéré, il reste maniériste, parce qu'il faudra définir le maniérisme comme ceci, le rapport du corps visible avec la force invisible. Et c'est ça qui lui donne cette attitude maniériste. C'est-à-dire que je crois que le maniérisme est en fait une dimension fondamentale, une dimension co-substantielle de la peinture. Alors, bon, mais capturer une force, vous savez, c'est pas facile. Voilà, vous êtes peintre. Vous êtes peintre. Vous voulez dessiner un bonhomme qui dort. C'est rien. Qu'est-ce qu'il ferait un peintre ? Quand on n'a pas de génie, on peut dessiner même très bien un bonhomme qui dort. C'est illustratif dans quel cas, et ça cesse d'être illustratif et même narratif, narration, bon, cet homme s'endort, il était fatigué. Alors le contexte est bien narratif, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, c'est pas la même histoire, si je m'endors le jour, la nuit, tout ça. Bon, les traits que vous faites sont figuratifs, un personnage sur un lit, bon. Je dis tout ça, c'est le monde des données pré-picturales. Alors ça compte assez peu finalement que des peintres passent par ces données-là. Que d'autres peintres ne les tracent pas sur la toile, qu'est-ce que ça peut faire? Ça compte très peu. De toute manière, même ceux qui les tracent, c'est pour les brouiller. C'est pour les faire passer par le diagramme. Et qu'est-ce que c'est le fait pictural qui sort du diagramme? Qu'est-ce que c'est? Ce serait trop facile de dire « Ah bon, c'est le corps en tant qu'il est en rapport avec la force de sommeil. » Force de sommeil, ça veut rien dire, c'est qu'un redoublement de qui dort. Comprenez, un grand peintre, il arrive à très bien capter la force de sommeil, elle est multiple. Dans le cas de Bacon, il dessine beaucoup, il peint beaucoup de personnages qui dorment. À mon avis, c'est parmi ses grandes réussites. Les dormeurs de Bacon sont très très prodigieux. Qu'est-ce qui vous frappe? Je crois que ce qui frappe, c'est une chose, si vous voyez des reproductions, si vous en avez dans vos souvenirs, c'est que ce qu'il a saisi, Et vraiment, je vois que lui, il y en a peut-être d'autres qui ont réussi ce coup-là, il a complètement capté ce qu'il faut appeler la force d'aplatissement dans le sommeil. Vous savez, un corps vraiment fatigué qui se couche, et on le voit même visuellement, mais comment le rendre? Ça, c'est être un grand peintre. Le corps qui semble complètement se vider, s'aplatir sur le matelas. Si bien que, à la lettre, c'est pas que ce soit un corps sans épaisseur. Si je peins un corps sans épaisseur, c'est nul. Ça rate. Si je peins un corps en train de perdre son épaisseur, c'est réussi. Bon. Cela, j'ai mis la forme en rapport avec une force de déformation, à savoir la force qui l'aplatit. Or, les dormeurs de Bacon prennent... Alors, à ce moment-là, on comprend pourquoi. Il est flanque de figures témoins debout, les figures témoins, et ça permet de répondre aussi à des questions comme dans un tableau complexe. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire? Vous voyez, par exemple, des dormeurs de Bacon. Là aussi, c'est encore une fois, ça me paraissait grande réussite. Hein. Des dormeurs de Bacon qui sont couchés, donc sur un lit. Et puis, ça peut être en triptyque, les deux autres panneaux, panneau gauche et panneau droit, présentent des personnages volumineux et très contorsionnés. Bon, votre regard, c'est pas parce que c'est au centre, il y a des triptyques de Bacon où l'essentiel, il est dans un panneau extérieur, droite ou gauche, pas au centre. Les dormeurs peuvent très bien être dans un panneau extérieur. Alors, on se dit, bon, où est la force? De quelle force il s'agit? Et quelle est la force qui vous touche, vous, là-dedans? Eh bien, pour Bacon, c'est très curieux, c'est sa manière de vivre le sommeil. Mais la comprenez, ce n'est plus du cliché. J'aurais pu faire sinon un bonhomme qui dort, que ce soit une merveille de traits, une merveille de couleurs. J'aurais pu faire le lit, une petite merveille de lit. Bon, d'accord, on passe au tableau suivant, quoi. Qu'un intérêt. Quand quelque chose vous frappe, c'est le fait pictural qui vous frappe. Ces tableaux dont je parle tout à l'heure, ils n'ont pas de fait. Il n'y a aucun fait pictural. Il y a un fait qui est celui du sommeil, il y a un fait narratif, il y a un fait illustratif, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de fait pictural. Aucun avènement d'un fait pictural. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour être un grand peintre, hein? Eh bien, vous regardez, c'est... Moi, je vois deux forces. En fait, c'est toujours très compliqué, parce que Bacon, c'est son affaire. Je suis sûr que c'est un homme qui a avec le sommeil un rapport particulier. C'est là le rapport du vécu et de la peinture. Il faut que, j'imagine, Bacon dormant beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûrement pas un insomniaque. Hein. Un insomniaque ne pourrait pas peindre ça. Alors, sous quel agent dort-il? Je n'ose y penser, mais... Il dort beaucoup, sûrement. Enfin, s'il était insomniaque, ce serait une catastrophe, mais ça fait rien. Bien. Alors, pour lui, c'est très curieux. Là aussi, il y a quelque chose de purement illustratif. Il y a énormément de dormeurs ou de dormeuses de Bacon, vu qu'il a fait des séries de dormeurs ou de dormeuses, énormément de dormeurs qui dorment avec un bras ou même deux bras dressés. Hein, vous voyez, ils sont couchés, et ou bien la cuisse levée. Bon, ce que je dis là, c'est figuratif. C'est ça que j'appelle le donné. Je peux dire à un peintre, en effet, c'est du donné, c'est du pré-pictural. Peut-être que Bacon lui-même dort comme ça. C'est du pré-pictural. Peut-être que Bacon aime cette position. Hein, une jambe dressée ou un bras dressé et dormir comme ça. Il y a toutes les combinaisons possibles. L'oreiller peut être haut, le bras comme ça et le corps comme ça, appuyé sur l'oreiller, le bras, mais bon. Voyez, si je dis, eh ben, je peux toujours dire à un peintre, dis donc, j'aimerais bien que tu peignes un dormeur avec un bras dressé. Bon. Quelle différence avec un dormeur de Bacon? Je disais tout à l'heure, regardez les dormeurs de Bacon. Et voyez si vous avez le même sentiment que moi, c'est-à-dire que la forme est en effet déformée, mais au besoin très peu, par une force d'aplatissement. Dès lors, le sommeil ne serait pas du tout défini simplement de manière tautologique comme force d'endormissement. Le sommeil, pour Bacon, tel que le vit Bacon, c'est une force d'aplatissement du corps. S'aplatir de fatigue, s'aplatir de sommeil. Et autre chose qui me paraît très curieux. Je dirais que Bacon, vous savez, il a fait aussi, alors on va voir comment des thèmes différents d'un peintre peuvent se court-circuiter. Bacon, il a fait énormément de quartiers de viande. Il les appelle même d'un nom particulièrement coquet, crucifixion. Des quartiers de viande qu'il nomme crucifixion. Le quartier de viande, ça a toujours été, peu de peintres ont résisté au quartier de viande. Formidable pour un peintre, un quartier de viande. Parce que, je veux dire, c'est une telle matrice de couleurs. Bon, certains peintres sont particulièrement connus pour leur quartier de viande. Il y a au moins un grand quartier de Rembrandt, qui est une merveille, une carcasse, une merveille. Et puis, il y a les séries infinies, mais tellement, tellement belle de Soutine. Or, quand vous voyez les quartiers, figurativement, on peut dire, bon, au moins trois grands peintres, Rembrandt, Soutine et Bacon, ont figuré des quartiers de viande et des carcasses entières. Bon, figurativement, narrativement, d'accord, aucun intérêt jusque-là. Si je me demande qu'est-ce que c'est la manière dont, qu'est-ce qui intéresse Bacon dans le quartier de viande, pas forcément la même chose que ce qui intéresse Soutine ou que ce qui intéresse Rembrandt. Il me semble, à tout ça, il faudrait que vous en voyez. Il me semble qu'il y a quelque chose de très curieux dans les quartiers de viande. C'est qu'il vit le quartier de viande, la carcasse, comme étant un mouvement, bien sûr, ça c'est pas nouveau, mais un mouvement par lequel la chair décolle des os. La chair décolle des os comme si, au lieu d'une organisation dans un corps vivant, il y a une espèce d'organisation, chair, os. Chez Bacon, la carcasse, elle se distingue précisément du corps vivant en ceci, que la chair, c'est pas du tout que la chair devienne molle, c'est une chair ferme. Hein. C'est une chair ferme, mais c'est une chair qui décolle des os. À la lettre, je ne trouve rien de mieux, c'est une chair qui descend des os. Elle descend des os. Or, si vous regardez, je suppose que vous regardiez un Bacon et que vous ne me donniez pas tort, c'est ça qui l'intéresse dans un quartier de viande, la chair descend des os. Faut le faire, hein. Comment peindre une chair qui descend des os? Pas de recette, c'est une force. Il y a une force de pesanteur propre à la viande. C'est ça qui intéresse Bacon dans la viande. Force par laquelle la chair descend des os. Tiens, descente, crucifixion. L'opération par laquelle la chair descend des os, c'est ça la crucifixion, la manière dont Bacon vit la crucifixion. Si bien que ces espèces de quartiers de viande qui sont comme dégoulinants, qui descendent des os, il les appellera crucifixion. Bien. Ça nous ouvre des horizons. Qu'est-ce que, en d'autres termes, les crucifixions qui l'intéressent, ce sont des descentes. Mais le thème de la crucifixion dans son rapport avec la descente, il parcourt toute la peinture. D'où question qui rebondit. Et les vieux, vieux peintres que nous admirons, qu'est-ce qui faisait passer dans la descente de la croix? Qu'est-ce qui faisait passer? Qu'est-ce qui les intéressait dans la descente de croix? Sûrement pas la même chose que Bacon. Je ne dis pas du tout que c'était la chair descendant des os. Mais pas ça. Et ça devait être autre chose. Est-ce que ce n'était pas aussi une histoire de force? En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Lorsque Bacon peint ses dormeurs avec bras levés ou cuisses levées, mais si vous regardez le tableau, et ça c'est une question vraiment de regard, je ne dis pas du tout, c'est pas du raisonnement, comprenez-moi. C'est formidable en effet. C'est tout un mouvement par lequel le bras vaut comme un os. La cuisse levée vaut comme un os. Et dès lors, tout le corps du dormeur descend de ce quasi-os, descend de cet os. C'est le processus de la descente. Tous ces dormeurs, c'est des crucifixions. C'est le mouvement de la chair qui descend des os. Et il lui faut, même si par goût, donnée figurative, il aime dormir comme ça. La fonction picturale du bras levé est complètement autre. C'est assigner une force du sommeil. La force du sommeil, une des forces du sommeil étant pour Bacon, le mouvement par lequel la chair descend des os. Un peu comme lorsque vous mettez la tête à l'envers, plus bas, et que vos joues la remontent. Remontent, c'est-à-dire, tendent à quitter l'orbite. Ce mouvement de la chair qui descend des os, la tête en bas, etc. Le corps qui coule du bras levé, le corps qui tombe de la cuisse levée. Et en effet, vous ne pouvez pas voir le tableau de Bacon, ces dormeurs, sans tout constituer le corps comme descendant de cette cuisse, comme descendant de ce bras. Et c'est ça que j'appelle le fait pictural. Si bien que je dirais dans les dormeurs de Bacon, vous avez en effet une déformation de la forme, le fait pictural c'est exactement ceci, déformation de la forme, en fonction de deux forces. J'en vois que deux, moi, mais quelqu'un d'autre en verra d'autres. Je ne pense pas que ce soit les seules forces, ou bien peut-être que Bacon vit le sommeil comme le lieu d'exercice de ces deux forces, principalement. Une force d'aplatissement, aplatissement du corps, et une force de descente. Le corps descend des os. Un corps qui dort, c'est une viande, parce que c'est un corps qui descend des os. Et c'est un corps aplati. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Quand vous avez atteint ça, il me semble que vous avez atteint, je ne sais pas, mais vous avez atteint ce que le peintre vous montre, c'est-à-dire ce qu'il rend visible. Il a rendu visible dans ce tableau deux forces invisibles. Et s'il lui faut des corps témoins debout et contorsionnés, à leur tour, ils ont des forces, ces corps. Ils rendent visibles des forces. Mais à mon avis, ça, à chacun de percevoir le tableau comme il veut, à mon avis, c'est secondaire. La réussite du sommeil était plus importante. Si bien que les corps volumineux et contorsionnés ne sont que comme des témoins du sommeil et ne valent que secondairement. Mais on pourrait dire autre chose. Bon, vous voyez, je reviens toujours à mes trois temps. Des données figuratives et des données narratives, vous en avez toujours. Vous en avez toujours. C'est pré-pictural, elles sont déjà là. C'est les photos, les clichés, tout ce que vous voulez. Les idées. C'est, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? C'est l'intention du peintre. L'intention ne peut être que figurative et narrative. Et même pour le peintre le plus abstrait, c'est pour ça qu'il y a encore lieu de faire aucune différence. On verra à quel moment on peut faire une différence entre tel courant et tel autre courant. Au point où on en est, il n'y a aucun lieu de faire la moindre différence. Quand Mondrian peint un carré, ben, il y a tous les carrés tout faits qui sont déjà là. Il se trouve exactement dans la même situation que les autres. Quand Pollock fait sa ligne d'un bord à l'autre, sa toile elle est déjà pleine de toutes les lignes qui ratent, de toutes les lignes clichées, de toutes les lignes toutes faites. Bon. Donc il n'y a aucune raison de faire la moindre distinction à ce niveau. Vous avez donc tout ce monde de données, de clichés. Et je dis, c'est l'intention du peintre. En quel sens? C'est que les clichés, le tout fait, il est inséparable de l'intention du peintre en tant que le peintre veut peindre quelque chose. Or, encore une fois, quand on est peintre, on veut peindre quelque chose. Je dirais, vous comprenez, ce qui rend le cliché inévitable, c'est que le cliché, il est fondamentalement intentionnel. Toute intention est intention de cliché. Toute intention vise un cliché. Or, il n'y a pas de peinture sans intention. Qu'est-ce que j'appelle intention ? Ben, j'appellerais intention, si j'essaie de donner une définition abstraite, mais en même temps simple, je dirais que c'est la différence entre une pomme et une femme. Je veux dire, Cézanne n'a pas la même intention suivant qu'il se propose de peindre une pomme et de peindre une femme. Et vous me direz, quand on se propose de peindre rien, il n'y a pas de peindre rien. Mondrian n'a pas la même intention quand il veut peindre un grand carré, un petit carré. Bon. Or, c'est l'intention qui promeut déjà le cliché. Dès lors, c'est forcé que le cliché soit sur la toile, avant que le peintre ait commencé. Je dirais, la forme intentionnelle est toujours en peinture figurative et narrative. Elle ne peut pas être autrement. Si bien que la tâche du peintre et l'acte de peindre, ça commence avec la lutte contre la forme intentionnelle. Je ne peux réaliser la forme intentionnelle, s'il y avait une dialectique dans la peinture, ça me semblerait celle-ci. Je ne peux réaliser la forme intentionnelle, c'est-à-dire la forme que j'ai l'intention de produire, je ne peux la réaliser que précisément en luttant contre le cliché qui l'accompagne nécessairement, c'est-à-dire en la brouillant, en la faisant passer par une catastrophe. Cette catastrophe, je l'appelle, ce chaos germe, je l'appelle le lieu des forces, ou diagramme. Et si ça réussit, si le diagramme ne tombe pas dans un des multiples dangers que l'on a vus, une fois dit que les dangers sont multiples, on reviendra là-dessus, si le diagramme est vraiment opératoire, comme dirait un logicien, si le diagramme est vraiment opératoire, qu'est-ce qui en sort ? Le diagramme, c'était la possibilité de fait. Il en sort le fait. Le fait, c'est la forme en rapport avec une force. Qu'est-ce que le peintre aura rendu visible ? Il aura rendu visible la force invisible. Je voudrais donner un exemple, moi, qui me frappe énormément. Mais c'est plutôt pour que vous en trouviez, que vous trouviez vos exemples à vous. Il y a un peintre de 19e, 20e siècle qui fait partie de la grande tradition expressionniste, hein, Kubka. Kubka, ça, il me semble que là, on dirait qu'est-ce qu'il a compris, lui. Si c'est vrai que Cézanne, il a compris une ou deux pommes, et puis que Bacon, il a compris un dos d'homme et trois dormeurs. Qu'est-ce qu'il a compris, Kubka ? Lui, il a compris quelque chose qui paraît beaucoup plus important, et pourtant, ce n'est pas un plus grand peintre que Cézanne ou Bacon. Mais il fait beaucoup de planètes qui tournent, hein, avec des couleurs très, très... C'est du bel expressionnisme. Hein. Or là, et je trouve pas, pour Bacon, j'arrive un peu à commenter. Comment, si vous voulez, j'ai l'impression que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça cernait bien les forces que Bacon a pu capter dans le cas du sommeil. Pour Kubka, j'en parle, parce que là, je me sens infiniment plus modeste, c'est pour moi un mystère absolu. Comment expliquer que, avec des espèces de petites boules, bien sûr, avec des indications de rotation, etc., Kubka ait réussi à ce point à donner, à capter une force qu'on ne peut appeler qu'une force de rotation et de gravitation. Une espèce de force alors astronomique. Enfin, je veux dire, à la limite, moi, j'aimerais que quelqu'un qui comprend Kubka mieux que moi, ou qui l'aime, j'admire ça très prodigieusement parce que j'y vois une très très grande réussite. Vous comprenez, c'est pas rien, hein, capter une force de cette nature. Et c'est vrai que dans un tableau de Kubka, même rapide, même presque une ébauche, ça c'est 6. C'est une espèce de truc, mais fantastique, dans les beaux Kubka, bien sûr. Là aussi, vous sentez à quel point ça peut rater. Il s'en faut de quoi pour que l'invisible soit capté ou pas capté, c'est-à-dire rendu visible. Il s'en faut de quoi. Je reprends un mot de Bacon, là aussi, qui est, comme ça j'en parlerai plus. À un moment, il a fait beaucoup de séries de gens qui criaient. De gens qui criaient, des papes notamment. Il y a une série de papes qui crient, c'est merveilleux. C'est dans la série des papes de Bacon. Un pape qui crie, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il a une formule qui me paraît très belle. Il dit dans ses entretiens, moi, vous savez, hein, faut bien regarder tout ça, parce que moi, ce que je voudrais, je suis modeste, ce que je voudrais, c'est peindre le cri plutôt que l'horreur. Peindre le cri plutôt que l'horreur, ça me paraît vraiment une phrase de peintre. Pourtant, c'est un des peintres qui a peint le maximum d'horreur. Hein, il le sait bien. Il ne nous a pas épargné, c'est affreux, là. Hein, c'est affreux, d'accord, oui, c'est affreux. Ces crucifixions, c'est affreux. Il y a une crucifixion qui représente un quartier de viande avec une bouche qui hurle, hein, pris dans le quartier de viande, et en haut de la croix, un chien qui attend. Hein. Et le chien, il est très très inquiétant. Enfin, c'est une horreur, il a peint une horreur, là. Alors pourquoi il nous dit, moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est peindre le cri plutôt que l'horreur. Ben, il sait bien. Il sait bien, et plus il ira, et c'est ça le cheminement d'un peintre. Mais ils sont très sévères quand ils jugent, encore une fois. Il dit, ben oui, dans tous mes débuts, j'ai jamais su séparer, hein, le cri et l'horreur. J'ai peint l'horreur. Seulement peindre l'horreur, c'est faire du figuratif. C'est encore du figuratif, c'est encore du narratif. L'horreur, c'est facile, c'est ça la leçon de la sobriété. De plus en plus sobre. Ça veut dire quoi, de plus en plus sobre? Seulement, c'est pas facile, c'est tellement difficile à y arriver qu'il faut bien passer par ces espèces d'excès et de gaminerie. Peindre l'horreur. Peindre l'horreur, peindre une scène abominable. Oui, d'accord. Bien, il fallait peut-être passer par là. Mais même déjà quand il peignait l'horreur, c'était sans doute pour en extraire autre chose, à savoir le cri. Peindre le cri, c'est autre chose. Pourquoi peindre le cri? Le cri, ben, qu'est-ce que c'est le cri? Qu'est-ce que c'est? Si je compare le cri et le sommeil, quelle différence il y a entre le cri et le sommeil? Quelle ressemblance plutôt? Entre le cri et le sommeil, il y a au moins une ressemblance, qui est la ressemblance picturale, à savoir, c'est que dans tous les cas, c'est des figures du corps, j'emploie figure précisément, expression bizarre en apparence, figure du corps, c'est des figures du corps, c'est-à-dire qui n'existent que dans la mesure où le corps est en rapport avec des forces, soit de force intérieure, soit de force extérieure. Il n'y a que ça d'intéressant, quand le corps est en rapport avec des forces. Alors, que le peintre ait tendance d'abord à mettre le corps en rapport avec des forces insupportables, insurmontables. Même Michel-Ange, il est tombé là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus de sobriété? Apprendre que le secret de la peinture ou que les faits picturaux les plus beaux, c'est lorsque, au besoin, les forces sont très très simples, très rudimentaires. Ce ne seront plus des forces qui supplicieront un corps. Ce ne seront plus des forces horribles. Ce sera la force d'aplatissement du sommeil. On commence par faire des scènes d'accidents abominables, par exemple quelqu'un qui passe sous un autobus, et puis on s'aperçoit que le vrai aplatissement du corps, c'est pas du tout l'autobus qui vous écrase, que le vrai aplatissement du corps, c'est le fait quotidien que vous vous endormez. Et que dans le fait de s'endormir, il y a un fait pictural, alors qu'il vaut peut-être pour toutes les souffrances du monde, qui vaut peut-être pour tous les écrasements. À ce moment-là, vous pourrez récupérer tout. Et la torture du monde, et les horreurs du monde, rien qu'en peignant un bonhomme qui dort. Oh. C'est forcé. C'est ça que je veux dire. L'espèce de recherche d'une sobriété, d'une simplicité toujours plus grande. Ce qu'en littérature, Beckett a réussi à arriver à quelque chose de plus en plus sobre, et que ce soit en un sens d'autant plus frappant, d'autant plus bouleversant. Mais dans les premiers Beckett, il y a encore trop de richesse, il y a encore une espèce de richesse narrative et figurative. Puis il arrivera à, il arrivera à cette espèce d'état, alors, de fait pictural chez lui, ça deviendra le fait littéraire, quoi, une espèce de fait littéraire à l'état pur. Bon, et c'est ça, vous comprenez, cette espèce de capture de force. Alors, le cri plutôt que l'horreur, le cri, c'est quoi? C'est le corps en rapport avec une force qui le fait crier. Bon, quelle est cette force? Comprenez? Si je réponds comme tout à l'heure, je ne voulais pas répondre, la force qui fait dormir, c'est le besoin de sommeil. On n'aurait rien appris. Là, je serais renvoyé au figuratif et au narratif. Si je dis la force qui fait crier, c'est le spectacle du monde. Je suis en plein dans le figuratif. À ce moment-là, il faut que je peigne une scène qui va rendre compte que la figure que je peins en même temps dans la scène crie. Je serai en plein dans le figuratif. C'est donc pas ça que j'appelle une force. Une force, c'est la force invisible. C'est en sens que je vous disais, il y a de lutte qu'avec l'ombre. Il y a de rapport du corps qu'avec les forces invisibles ou avec les forces insensibles. Il y a de lutte qu'avec les forces. Et quel est le rôle et quel est le rapport du visible et de l'invisible, du visible et de la force qui n'est pas visible? Le rapport du corps avec la force, il me paraît très, très simple finalement, c'est que parce que le corps est visible et qu'il va subir de la force une déformation créatrice, alors la visibilité du corps va me permettre, va rendre visible la force invisible. C'est dans la mesure où le corps étreint la force invisible qui s'exerce sur lui, d'où le thème de la lutte avec l'ombre. C'est dans la mesure où le corps étreint la force invisible qui s'exerce sur lui que la force invisible devient visible. De quelle manière ? Là, tout devient flou. Que le corps la rende visible en tant qu'ennemi ou qu'il la rende visible en tant qu'ami. Si le peintre arrive à faire qu'un corps qui meurt rende visible la force de la mort, peut-être à ce moment-là que la mort devient pour nous et pour le corps représenté, devient une véritable amie. C'est-à-dire que tout ce qui avait de facile, de figuratif, d'affreux, d'horrible, devient très secondaire par rapport à une espèce d'immense consolation vitale. De toute manière, une capture de force aidée. Alors, la bouche qui crie, bien sûr, elle est en rapport avec quoi? Pas avec un spectacle visible. Je pense à une phrase très belle de Kafka dans une lettre. Dans une lettre, il dit ceci, il dit, ce qui compte finalement, c'est pas le visible, c'est quoi? C'est capter, détecter, non, il dit pas capter, lui, ça revient au même, détecter. Détecter les puissances diaboliques de l'avenir qui frappent à la porte, qui frappent déjà à la porte, c'est-à-dire qui d'une certaine manière sont déjà là, mais elles ne sont pas visibles. Je vais dire, prenez par exemple le fascisme, les états de torture, tout ça. Il y a du visible, mais il y a quelque chose encore qui excède toute visibilité. Ce qu'il y a de terrible, c'est jamais ce qu'on voit, c'est encore quelque chose qui est en dessous, pas visible. Les puissances diaboliques de l'avenir qui frappent déjà à la porte. Et là, voilà, premier stade. Je peins un spectacle horrible et une bouche qui crie devant ce spectacle. Si beau que ce soit, c'est encore du figuratif et du narratif. Deuxième stade, j'efface le spectacle. Je ne peins plus que la bouche qui crie. Il m'a fallu passer par le diagramme, par la catastrophe qui entraînait toute figuration. Et peindre la bouche qui crie seulement, ça veut dire, en fait, je ne la peins pas seulement. C'est qu'à ce moment-là, j'ai capté les puissances qui font crier. Et de telle manière que la bouche qui crie devienne aussi bien l'ami de ces puissances que l'ennemi. Ces puissances sont comme transformées. C'est curieux tout ça. Alors on voit bien que dans le cas de Bacon, j'ai pris ça, mais justement, il faudra voir, ça me paraît tellement constant tout ce que je dis sur toute la peinture, des gens qui dorment, des gens... Mais Bacon, il a ses coquetteries, les peintres, ils ont toujours leur coquetterie. Lui, il fait en effet plutôt dans l'horrible, hein, ou même parfois dans l'abject, mais il fait de moins en moins dans cette voie. Il a épuisé cette voie, il se traite très sévèrement d'être passé par cette voie. Mais il peint énormément de hoquets, vomissements. Il y a un tableau très beau de lui, personnage au lavabo. Il y a un type qui vomit dans son lavabo. On ne voit pas le vomissement, mais toute l'attitude du corps, le dos. Un dos qui vomit. Tiens, un dos en proie à la force de vomissement. Comprenez, c'est pas facile à faire, après tout, à peindre. Alors, il tient au lavabo, là, comme si le lavabo... Bon. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un vomissement et un cri ? Pas difficile. Ces deux efforts, là aussi, on va peut-être retrouver alors une obsession de Bacon. C'est deux mouvements par lesquels le corps tend à s'échapper. Curieux ça, s'échapper. Mon corps m'échappe. C'est une impression de panique très vive, c'est la panique, là c'est la catastrophe. Il va falloir que le corps, bon, si le corps doit être peint, dans le cas de Bacon, il faudra qu'il passe par cette catastrophe du corps qui s'échappe. C'est le diagramme de Bacon. Alors il peut s'échapper de manière très différente, il peut s'échapper dans le vomissement et dans le cri. C'est pas du tout la même bouche, la bouche qui vomit, la bouche qui crie, c'est pas du tout pareil. S'échapper, un corps qui s'échappe, c'est curieux ça. Mon corps m'échappe. Je ne sais pas si vous avez été opéré, mais ceux qui ont été opérés ont cette expérience qui me paraît faire comprendre des choses. Ceux qui ont subi enfin une opération importante. C'est marrant. D'abord, l'opération, ça, moi je serais peintre, c'est ça que j'essaierais de... quelqu'un qui a subi une opération grave, hein, quelque chose de formidable alors. Faire de la figuration, ce serait représenter une opération. Aucun intérêt, évidemment. Aucun intérêt. Bon. Mais dans une opération, vous savez, il y a quelque chose de très bizarre. C'est que même lorsque l'opération ne mettait pas la vie en danger, le type qui en sort, il suffit de le regarder après, c'est absolument comme s'il avait vu, sans tragique, je ne dis pas que ce soit tragique, comme s'il avait vu la mort. Je veux dire, les yeux sont extraordinaires. Les yeux d'un opéré frais, si vous n'en avez pas eu autour de vous, faites les cliniques, n'importe quoi. Mais ça, il faut avoir vu ça, je crois, même pas par curiosité. Là, je ne dis pas des choses de petite perversion lamentable, je dis des choses de presque de tendresse. Si vous voulez sentir vraiment quelque chose pour l'humanité, voyez des gens qui se sont fait opérer. Les yeux sont comme complètement lavés, comme s'ils avaient vu quelque chose qui n'était pas horrible, hein, c'est pas du tout, comme s'ils avaient vu quelque chose qui peut être que la mort, quoi, qui peut être qu'une espèce de limite de la vie, hein. Ils en ressortent avec cette espèce de regard très très pathétique, très bon, rendre ce regard, ça pourrait être fait que si le peintre arrive à capter la force. Alors avec quelle déformation du regard. C'est pas comme s'il avait une tête sur l'œil, c'est bien autre chose. C'est impossible à dire. J'arrivais un peu à dire pour Bacon dans le cas du sommeil, j'arrivais pas à dire pour Kubka dans le cas des forces astronomiques de Kubka. C'est ça qui définit un grand peintre, vous comprenez ? Alors, dans l'expérience post-chirurgicale, il y a quelque chose de très étonnant. C'est que votre corps a tendance à s'enfuir, s'échapper partout à la fois. Au point que il fuit partout libre. Et c'est pas du tout inquiétant, c'est même ce qu'on appelle une bonne convalescence, quoi. Si vous prenez, vous sentez que votre corps, vous ne le tenez plus du tout, qu'il s'échappe partout. Alors, c'est une drôle d'expérience, ça. Et quand je dis ce regard comme de gens qui ont vu quelque chose, hein, c'est dommage qu'ils oublient tellement, en effet, sinon les gens, ils seraient merveilleux, hein, ils n'oublieraient pas une opération. Ils en sortiraient bons. On a l'impression, après une opération, qu'ils ont compris quelque chose. Pourtant, ce n'est pas eux, mais que leur chair a compris quelque chose. Le corps, il est intelligent quand même. Leur corps a compris quelque chose, qu'ils vont ensuite oublier tellement vite, oh, dommage, hein. Une espèce de bonté, une espèce de générosité émane d'eux. Car cette mort qu'ils ont vue et qui devient visible dans leurs yeux, c'est très curieux. Dans la mesure où elle devient visible, elle cesse d'être l'ennemi, elle est d'une certaine manière l'ami. C'est-à-dire, elle devient en même temps autre chose que de la mort. Or, c'est sacrant, un grand peintre. Bon, je dis dans le cas de Bacon, alors, le corps s'échappe, un vomissement. Un vomissement. Tenez, justement, alors je vais prendre les lunettes. Voilà. Je vous lis un passage d'un très grand romancier. C'est curieux, d'avant Bacon, hein. Ouais. Voilà l'histoire, je dis la narration. Hein. C'est un moment du roman, c'est justement un romancier qui déborde tellement la narration. Je le dis tout de suite, c'est Conrad. Hein. C'est Joseph Conrad. Dans un très beau roman intitulé Le Nègre du Narcisse. La situation est celle-ci. Le bateau coule. Le bateau est en train de couler. Et il y a un marin qui est pris dans une cloison, dans une, non pas dans une cloison, dans une cabine. Tout s'est effondré, là, tout est bloqué, on ne peut pas le sauver. Et ses copains veulent le sauver parce que il est fétiche, parce que d'une part, il est noir, c'est le seul noir du navire, et d'autre part, il est tout le temps malade. Alors là, entre les obscurités de Bacon, on veut d'autant plus le sauver qu'il est condamné. Et tout l'équipage s'y met, comme des fous, sans savoir pourquoi. Il faut le sauver, lui. Il faut le sauver, lui. Et enfin, ils arrivent jusqu'à la cabine, après toutes sortes d'efforts, et avec un appareil, je ne sais plus quoi, avec un morceau de fer, ils attaquent une cloison. Ils attaquent une cloison. Voilà le texte. Ah. Nous regardions le fer attaquer obstinément le joint de deux planches. Un craquement, puis soudain la pince disparut à demi parmi les échardes d'un orifice oblong. Vous voyez, s'enfonce la pince, la cloison cède tout d'un coup et passe de l'autre côté. Archie, le marin qui tenait la pince, Archie la retira prestement. Et, c'est là que le texte commence, formidable, donc c'est le nègre du Narcisse qui est enfermé dans la cabine, et ce nègre infâme, pourquoi infâme, vous allez comprendre tout à l'heure, et ce nègre infâme, se jetant vers l'ouverture, y colla ses lèvres et gémit au secours. D'une voix presque éteinte. Vous voyez, il y a un trou minuscule, un tout petit trou dans la cloison. Et le type, là, qui est enfermé, qui était dans la panique, colle ses lèvres, au lieu de se blesser avec la pointe, là, et murmure au secours. D'une voix presque éteinte, pressant sa tête contre le bois dans un effort dément pour sortir par ce trou d'un pouce de large sur trois de long. Un effort, pourquoi femme? Je me dis, cherchons à définir physiquement, on ne fait pas de philosophie, hein. L'abjection. Qu'est-ce que ce serait l'abjection? Je me demande si l'abjection, ce n'est pas l'effort constant, on est tous abjects à ce moment-là, ce serait bien. L'effort constant, ou de temps en temps, qui traverse le corps, l'effort par lequel le corps tend à s'échapper. Tend à s'échapper par un orifice, soit orifice lui appartenant, c'est-à-dire faisant partie de son organisme, soit orifice extérieur. Ce serait ça. Pourquoi est-ce que ce serait ça l'abjection? J'en sais rien. Quelqu'un me dit tout d'un coup, « Oh, je voudrais passer par ce trou de souris. » Abject. Pourquoi? Je sais pas. Oh, il y a quelque chose d'abject là-dedans. Je voudrais me faire, tiens, et en effet, pourquoi est-ce qu'il veut passer par le trou de la souris? Parce qu'il a honte. Hein? Dans la honte, je vais me faire plus petit qu'une souris. Mais oubliez le tout courant de la formule, le tout fait de la formule, passer par un trou de souris, c'est abject, ça. Comment un homme peut-il être réduit à passer, à vouloir passer par un trou de souris? C'est grotesque, quoi. Celui qui vomit, il est doublement abject. Il est doublement abject, car d'une part, son corps se réduit à cet effet. Grave, c'est pas grave, bon, très bien. Alors, vomir, c'est ça. Tout mon corps, parce que c'est pas simplement ce que j'ai mangé, c'est tout mon corps qui tente de s'échapper par un de mes orifices. Et le cri, c'est pareil. Voilà donc, j'appelle abjection, mais sans aucun sens péjoratif, hein. Aucun. L'effort du corps pour s'échapper ainsi, mais bien plus, il est redoublé par ceci, que lorsque je tente de m'échapper par un de mes orifices, en fait c'est toujours redoublé, je tente de m'échapper aussi par un orifice extérieur, comme le type du narcisse, à savoir le spasmodique de Bacon en train de vomir là, et qui s'accroche au lavabo, manifestement tente de s'échapper par le trou de vidange du lavabo. Tout son corps tente de fuir par là. Est-ce que la peinture rencontre de ça? Si elle rencontre de ça. Bacon, à la limite, aurait pu appeler ça abjection. Il est très sobre dans ses titres, parce que ça aurait été un titre trop figuratif. Il appelle ça figure au lavabo. Figure au lavabo, très bien. Bon, ça appartient à une série. On voit le rapport avec le cri. Là aussi, c'est en termes de corps-force. Ça ne vaut en effet, alors vous voyez, toute figuration, même si elle continue à être présente, elle peut continuer à être présente, elle sera neutralisée, elle sera annulée. Chez Michel-Ange, elle continue à être présente, chez Bacon, elle continue à être présente. Chez un peintre dit informel, elle ne sera plus présente. Chez un peintre dit abstrait, elle ne sera plus présente. Mais présente, actuellement présente ou pas, même quand elle ne l'est plus, elle est virtuellement présente. Évidemment, elle ne fait qu'un, encore une fois, avec la forme intentionnelle. Toute forme intentionnelle est figurative et narrative. Seulement en peinture, la forme intentionnelle, c'est le premier temps de l'acte de peindre. Le second temps, on a vu, c'est instaurer le chaos germe, ou le diagramme qui va définir la possibilité du fait pictural. Et le troisième temps, c'est le fait pictural lui-même. Alors, vous comprenez, je voudrais donner, pour en finir, comme ça j'en aurais fini avec ce que j'avais à dire, par exemple, sur l'exemple même de Bacon, il y a un texte de Bacon qui me paraît très beau. Voilà. Mais il faut, hélas, que je vous montre encore un petit bout de peinture. Mais vous verrez rien, alors ça sert à rien. Voyez, je dis, voilà, parapluie. Il y a un parapluie, hein, pour ceux qui ne voient pas. Il y a un parapluie. Il y a un homme sous le parapluie, mais là, soyez juste, j'espère que vous n'allez pas me contredire, et puis comme vous ne voyez rien, je peux dire ce que je veux. L'homme sous le parapluie, la tête, on ne voit que la moitié inférieure du visage, avec une bouche assez inquiétante, une bouche dentelée, hein, et cette bouche et toute cette moitié inférieure, ça monte, hein. Ça monte, à mon avis, ça monte. Impossible de le faire descendant du parapluie. Il est comme happé par le parapluie. Il monte dans le parapluie comme pour fuir par une pointe. Bon. Et puis, en haut, un grand quartier de viande. Vous voyez ? Plus les couleurs des aplats de Bacon qu'on retrouve constamment chez Bacon. Bon. Vous avez bien compris. Bacon, dans les entretiens, il dit voilà, voilà pour ce tableau, qui est intitulé Peinture, Peinture 1946. Il dit, c'est tout simple, je voulais peindre, j'avais l'intention, là on va très bien retrouver nos trois états, et comme ça après, ce sera fini pour... j'avais une intention, c'était de peindre un oiseau qui se posait dans un champ. Un oiseau qui se posait dans un champ. Vous me suivez, hein, ça peut venir à l'esprit d'un peintre, c'est un bon sujet, un oiseau qui se pose dans un champ. Et il dit, j'ai commencé et petit à petit s'est imposé autre chose. S'est imposé autre chose. Et j'ai fait cet homme au parapluie. Cette figure au parapluie. La première réaction, heureusement qu'il y a le type qui l'interviewe, qui justement joue le rôle de la première réaction, ça nous aide beaucoup. La première réaction, ce serait de dire, ah oui, je comprends. Au lieu de l'oiseau, au lieu de la forme oiseau, il a fait la forme parapluie. Très important. Et en effet, si vous voyez le parapluie, c'est un peu comme une espèce de grosse chauve-souris. Bon, il y a un thème d'oiseau. Rien du tout. Car, à son intervieweur qui lui dit, oui, vous voulez dire que l'oiseau est devenu parapluie. Ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est que Bacon répond pas du tout. Pas du tout. En d'autres termes, vous n'avez rien compris. Pas du tout. Il dit, je ne vais pas dire ça. Ce qu'il faut mettre en rapport avec l'oiseau que je voulais faire, c'est, dit-il, l'ensemble qui m'est venu d'un coup. Je cite presque exactement, je contracte un peu pour aller plus vite. C'est l'ensemble qui m'est venu d'un coup ou la série que j'ai faite progressivement. Ça m'intéresse bien pour comprendre comment un peintre procède. Parce que déjà, le texte est très bizarre. La réponse de Bacon est d'une grande confusion, parce qu'enfin, il dit, il ne faut pas mettre en rapport mon intention d'oiseau et le parapluie. Il faut mettre en rapport mon intention d'oiseau et l'ensemble en un coup, c'est-à-dire la série graduelle. C'est l'un ou l'autre à première vue. Une série graduelle et un ensemble en un coup, ça semble parfaitement contradictoire. Donc si Bacon veut dire quelque chose, et on a toute raison de penser qu'il veut dire quelque chose, c'est qu'il se place à un point de vue où série graduelle ou ensemble donné en un coup, la différence n'a plus d'importance. Il veut dire, de toute manière, le tout du tableau, envisagé spatialement ou temporellement. Envisager temporellement, c'est la série graduelle. Envisager spatialement, c'est le tableau qui se présente à nous, ensemble en un coup. Bon, d'accord. Alors, ils disent qu'il faut mettre en rapport avec la forme intentionnelle oiseau, c'est toute la série ou tout l'ensemble.
Bon.
C'est quoi toute la série ou tout l'ensemble? Si on comprend ce qu'il dit. La série, je peux la définir, de haut en bas. Viande, quartier de viande en haut, parapluie, homme au visage rongé par le parapluie et à la bouche ouverte. Voilà, ça me fait ma série. Ce que Bacon ne veut pas, c'est qu'il y ait simplement un rapport d'analogie entre forme oiseau et forme parapluie. Il dit c'est pas comme ça que je procède. En effet, ce serait simplement une transformation, comment un oiseau se transforme en parapluie. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. À la limite, ça donnerait une espèce de vague surréalisme. Bon. C'est pas ça, il dit. Et pourtant, il y a une analogie entre la forme oiseau et l'ensemble du tableau. En d'autres termes, c'est la première fois que nous avons à rencontrer l'idée suivante, quitte à la vérifier seulement plus tard, est-ce qu'il n'y aurait pas deux formes d'analogie très très différentes? Vous voyez, je peux parler d'une première forme d'analogie s'il y a analogie entre la forme oiseau et la forme parapluie. Je dirais quoi à ce moment-là? Je dirais, il y a un transport de rapports. C'est-à-dire, les mêmes rapports se trouvent entre les éléments de l'oiseau dans la forme 1 et les tranches du parapluie, les éléments du parapluie dans la tranche 2, dans la forme 2. Il y a transport de rapports identiques, il y a identité de rapports. Bon. Des rapports donnés se transportent d'une forme à une autre. Peut-être qu'il y a une analogie esthétique qui n'a aucun rapport avec ça, qui est tout à fait différente. Ce serait quoi l'analogie esthétique? Eh bien, reprenons le tableau dans notre souvenir confus. Il y a la viande qui a comme deux bras par lesquelles elle est suspendue, comme à des crocs de boucher. Il y a une espèce, cette fois-ci, c'est pas une viande qui... Si, il y a le thème des bras. La viande va descendre de ces espèces de deux bras indiqués. En d'autres termes, le rapport propre à l'oiseau, elle qui s'ouvre, est devenu quoi? Il est devenu l'équivalent, ou il est devenu, il s'est, là je trouve pas mes mots, mais c'est exprès, il s'est transformé, c'est le rapport même qui s'est transformé en un tout autre rapport. Rapport os-viande, la viande descend des os, il y a des petits bras de la viande qui sont comme des os, d'où la viande tombe, descend. Voilà. Ce qui évoque très vaguement l'oiseau, c'est ce mouvement des bras dont la viande va tomber, qui évoque très, très vaguement l'ouverture d'ailes. Si bien que la viande qui tombe de ces deux petits bras, elle tombe à la lettre, disons quelque chose comme une espèce de ruissellement de viande. Elle tombe des os. D'où? Vous voyez, là je suis en train de parler en termes de fait pictural. La viande descend des os, c'est la première connotation avec l'oiseau. L'oiseau qui ouvre ses ailes. Deuxième connotation. La viande tombe, elle tombe sur le parapluie, elle ruisselle sur le parapluie. Deuxième connotation avec l'oiseau. Là, cette fois-ci, le parapluie, c'est comme les ailes qui se ferment. Troisième connotation, seul le bas de la figure, du visage de la figure est visible. une étrange bouche tombante et dentelée. Cette bouche comme bec dentelé. En d'autres termes, l'oiseau est complètement dispersé dans l'ensemble ou dans la série. Il est complètement dispersé au point qu'il n'existe plus du tout figurativement. On pourrait dire tout au plus que le tableau contient, comment appeler ça, des traits d'oisellité. Premier trait d'oisellité, les petits bras levés de la viande. Deuxième trait d'oisellité, l'étrange du parapluie. Troisième trait d'oisellité, le bec dentelé de la figure, complètement dispersé dans le tableau. Les rapports constituants du tableau, c'est le rapport de la viande qui tombe avec le parapluie sur lequel elle tombe et de la figure qui est happée par le parapluie. Ça, c'est les rapports constitutifs du tableau. En d'autres termes, le fait pictural est produit par de tout autre rapport. Le fait pictural est produit par de tout autre rapport. Si vous voulez, est-ce qu'il n'y aurait pas deux types d'analogies ? Une qui procède par ressemblance qui se transporte, mais ça on ne pourra voir ça que plus tard, et une autre qui procède tout à fait autrement, qui procède au contraire par rupture de ressemblance. Bon, supposons. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était, si vous voulez, confirmer, en m'appuyant surtout sur le cas Bacon, c'était donc confirmer comme la présence de ces trois. Si je résume tout, j'ai bien à la fois ce monde de données prépicturales, fait de narration et d'illustration. L'instauration vraiment fondamentale du chaos germe, c'est-à-dire le tracé du diagramme. Le diagramme, il y est dans ce tableau, hein, vous ne pouvez pas voir, mais si vous voyez, si vous êtes amené à voir une reproduction, vous verrez que un peu à gauche, sous le, au niveau du corps du bonhomme qui sourit, qui au bec dentelé, qui est happé par le parapluie, il y a une zone proprement qu'on peut appeler diagrammatique, qui est précisément faite de gris, d'une espèce de gris très tourmenté. Et toute la série ascendante, bonhomme, parapluie qui le happe et viande au-dessus, là, sort, en quelque sorte, sort de cette espèce de diagramme gris. Et puis, le fait pictural qui en sort. Bon. Voilà, alors, ce que je voudrais surtout retirer, c'est l'impression de, comme, de formule appliquée. Ça, c'est pas une formule appliquée. Pensez qu'en effet, tout ce que je dis perd strictement tout sens si vous uniformisez cette notion de diagramme. Il faut voir que, par exemple, des diagrammes de peintres de lumière n'ont strictement rien à voir avec des diagrammes de coloristes. S'il y en a chez tous les peintres, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait chez tous les peintres, mais encore une fois, un diagramme Cézanne et un diagramme de Van Gogh, là où il y en a de toute évidence, n'ont strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout une idée générale, hein, le diagramme. C'est quelque chose d'opératoire dans chaque tableau. C'est une instance opératrice. Ce que je voudrais arriver, oui, c'est ça qu'on fera après Pâques, et comme ça on se rapprochera un peu de problèmes de pure logique ou de philosophie, c'est je voudrais arriver à une conception du diagramme qui montre bien la différence entre des termes modernes comme diagramme et la différence d'un diagramme avec un code. En quoi c'est complètement autre chose qu'un code, précisément. Si c'était un code, c'est la catastrophe, il n'y aurait aucun lieu de rapprocher ça de la peinture. Mais justement, ça n'a rien à voir avec un code. Et encore une fois, il y a à chaque instant possibilité jusqu'au bout que le diagramme rate. À ce moment-là, oui, le tableau devient un gâchis. Mais si dans un tableau, vous ne voyez pas en quoi il a frôlé le gâchis, en quoi il a failli rater, vous ne pouvez pas avoir assez d'admiration pour le peintre. Courbet, mais n'importe qui, moi je cite à mesure qu'ils me viennent à l'esprit, on est devant les Courbets, on se dit, mais c'est un miracle, ça sort vraiment comme un miracle, Ça a tellement frôlé un truc qui allait rater. Et puis, non. Il se rattrape. Prodigieux. Prodigieux. Alors, tous les grands peintres donnent cet effet. S'en faut d'un rien que Michel-Ange, ça devienne une boule de muscles. Une boule de muscles qui vraiment ne... C'est la différence hein, entre un disciple et un... Mais des Cézanne, c'est même pas la question des vrais et des faux. C'est la question des disciples et des créateurs. Après Cézanne, ben oui. Après Cézanne, ce qui était chez Cézanne, lutte contre le cliché, est devenu chez ses imitateurs, quoi. Ben, c'est devenu un cliché, forcément. Alors il faut chaque fois que la peinture se réarrache à son état de cliché. Il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est Rauschenberg. Rauschenberg, qui il me semble être un très grand peintre, avait à un moment, dans ses périodes de provocation, il avait pris une esquisse d'un tableau d'un peintre antérieur à lui, et très grand aussi, et il l'avait simplement effacé, et il avait mis « tableau effacé par Rauschenberg hein. ». C'est stupide, mais c'est l'illustration même de cette zone d'effacement, de nettoyage. C'est pas que le tableau de l'autre était médiocre, au contraire, il était prodigieux. C'était un très très beau dessin. Mais c'est vrai que quand le peintre l'a réussi, ça devient cliché à une allure folle. Alors la réaction du peintre qui tantôt, et ça revient un peu au même, lorsqu'un grand peintre, vous savez, fait des études, c'est-à-dire copie le tableau d'un autre grand peintre, des exemples célèbres, ou lorsqu'il efface simplement, ça revient au même. Ça revient au même, il y a une espèce de volonté là de passer par le diagramme pour qu'en sorte un nouveau fait pictural. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est en quoi le diagramme est tout à fait autre chose qu'un code de la peinture. Eh bien, ayez de bonnes vacances. Merci.